Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec, en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée, au micro Renaud Grégoire. Nous avons la joie de recevoir cette semaine Marie-Josée Poiré. Nous allons parler du mystère pascal. Est-ce que c'est vraiment un mystère? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mystère pascal? On va l'aborder dans quelques instants. Bienvenue, Marie-Josée Poiré.
Bonjour, Renaud.
Marie-Josée, vous avez débuté votre collaboration à la revue Vie liturgique en 1978 et vous avez été la directrice générale de cette revue de 1987 à 1991. Donc, vous avez abordé le mystère pascal dans les cadres de la revue, mais pas juste dans le cadre de la revue. Et vous avez fait des études de premier et deuxième cycle en théologie à l'Université Laval. Et ainsi, vous avez une licence canonique en théologie à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris en 1996, avec des recherches sur le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Vous avez aussi représenté le Canada de 1998 à 2004 au groupe de travail de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, chargée de la révision du rituel des funérailles. Vous avez collaboré avec l'Office de liturgie et aussi vous avez accompagné, coordonné plutôt, le parcours de formation liturgique et sacramentaire de la CECC, donc la Conférence des évêques catholiques du Canada, où vous avez accompagné des groupes un peu partout au Canada francophone tout en donnant des cours. Depuis 2016, vous êtes, Marie-Josée Poiré, directrice exécutive du Bureau de coordination des parcours de formation liturgique et sacramentelle. Depuis l'automne 2020, vous travaillez avec l'équipe de l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Chicoutimi, devenu en 2022 le service d'accompagnement et de formation. Et vous êtes membre du comité d'orientation de la revue Vivre et célébrer depuis 1997. Vous êtes aussi professeur associé à l'Université Laval, à l'Institut pastoral de Montréal depuis 1990. De 1997 à 2004, vous avez aussi donné des cours à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris. Vous collaborez à plusieurs revues, dont Vivre et célébrer, Liturgie, foi et culture, Célébrer les heures, La Maison Dieu, Christus, Lumen Vitae, Cahier de spiritualité ignatienne, etc. Vous avez aussi écrit beaucoup sur le mystère pascal. Et depuis quelques années, vous vous impliquez bénévolement auprès d'organismes qui soutiennent les personnes atteintes d'Alzheimer et aussi vous offrez du soutien à leurs proches. Marie-Josée Poiré, justement, ce mystère pascal, comment vous définissez ce mystère pascal? Parce que nous entrons dans cette grande période du temps pascal.
Comme beaucoup de personnes, j'ai pendant longtemps pensé que le mystère pascal, c'était un peu ce qu'on vit pendant les jours saints, pendant la semaine sainte. C'est-à-dire le moment à partir du dimanche des Rameaux jusqu'à la veillée pascale. Donc, vous avez dit que j'ai travaillé à Vie liturgique, que j'ai eu la chance pendant que je travaillais à la revue puis que j'étais directrice générale de collaborer à deux reprises à des cahiers spéciaux qui présentaient justement les jours saints, la semaine sainte. Donc pour moi, c'était quelque chose là de que je connaissais, mais je dirais que c'est vraiment quand je me suis retrouvée à Paris pour étudier en 1992 que je pense que j'ai vraiment compris et saisi ce qu'était le mystère pascal. Bon, d'une part, probablement parce que cette période-là de ma vie a coïncidé avec une période de mort. Je sortais de 10 années professionnellement extrêmement chargées à une vitesse grand V, où j'étais impliquée dans 50 millions de choses au Québec. Tout à coup, je me retrouve étudiante à l'étranger, dans un milieu extrêmement différent. Et, disons-le, épuisée. D'ailleurs, j'ai fait un vrai burn-out 2 ans plus tard, là, en 94. Mais j'ai eu l'impression que, après coup, là, maintenant, plus de 30 ans après, je peux dire que je pense que 92-94 ont été des années de l'équivalent d'une longue semaine sainte, où j'ai vraiment vécu un parcours de mort, au sens propre, là, de dépouillement, d'abandon. En même temps, c'était des années extraordinaires au niveau des études. Mais ce qui était extraordinaire, ça a coïncidé avec une découverte intellectuelle et spirituel de ce qu'était le mystère pascal. D'une part parce que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants, des enseignantes à l'Institut catholique de Paris, qui étaient des hommes qui avaient été très proches de ceux qui ont fait Vatican II. Et on sait qu'au moment du concile, le mystère pascal a été une dimension fondamentale. Donc, ils nous ont plongés, mais avec une, pas seulement au plan intellectuel, mais avec une passion dans ce que ça signifiait, le mystère pascal. Que c'était pas justement une célébration qu'on vivait. Oui, on la vit pendant les jours saints, puis ça, c'est tout à fait juste de le penser. Mais c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me concerne. Moi, aujourd'hui, dans mon expérience à moi, dans ma vie à moi, et on peut pas parler de mystère pascal sans faire le lien avec notre vie quotidienne. Et ça, moi, dans toutes mes études théologiques, dans tout ce que j'avais lu auparavant, j'avais jamais saisi cette dimension-là. Et là, ça m'a fait refaire toute ma théologie, à quelque part, en quelques années.
Mais quelle est cette découverte, justement? Quand on célèbre, justement, dans la Semaine Sainte, on dit, bon, le vendredi, c'est la mort, le samedi, c'est le silence, le matin, le samedi saint, c'est la veillée pascale, et on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument, oui, formidable que le Christ soit ressuscité. Mais le lien avec notre vie est peut-être un peu ténu. Hein?
Ouais, ben en fait, le lien avec notre vie, je me suis déjà fait interpeller dans un cours où je parlais du mystère pascal avec un groupe d'étudiants là, puis c'était. Et il y en a un qui, à un moment donné, qui m'a coupé en me disant, mais là, depuis tantôt, tu parles du mystère pascal, là, en quoi ça me concerne? OK, c'est bien beau, là, mais en quoi ça me concerne, moi, dans ma vie? Et là, ça m'a fait brutalement atterrir sur terre, et cette question-là me hante depuis, c'était en 93, et ça me hante depuis. En quoi ça me concerne, moi, dans ma vie? Puis là, j'ai creusé au plan théologique, qu'est-ce que ça voulait dire, la redécouverte du mystère pascal. Bon, on fera pas de l'histoire de la théologie ici. Là, mais la notion même de mystère pascal a été pratiquement écartée comme telle de la théologie pendant presque 8 siècles. Il faut le savoir, là, et c'est lié, entre autres, au moment où, à partir du 11e-12e siècle, on s'est mis à parler plutôt de rédemption plutôt que de mystère pascal. Donc, en mettant l'accent sur la croix et la mort, plus que le lien entre croix et mort et résurrection. La notion de mystère pascal considère la mort et la résurrection l'un lié à l'autre. On peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. C'est un mouvement. Ce qui est important dans le mystère pascal, c'est la notion de mouvement, de passage d'un à l'autre.
Okay? Et ce passage a été occulté, là. On a mis plus l'accent sur la rédemption.
Oui, et ça, je veux dire, toute la théologie occidentale latine s'en est ressentie. D'ailleurs, nos frères et sœurs orthodoxes nous le reprochent assez, là. Et ça, puis d'avoir oublié l'Esprit-Saint. Ils ont pas tort dans les deux cas. Mais par rapport à, justement, en perdant de vue le lien indissociable entre mort et résurrection, ben on a fait du catholicisme et de la foi chrétienne une foi triste, une foi centrée sur la mort, même doloriste, alors que justement, s'il y a mort, c'est pas pour rester dans la mort, mais c'est pour passer vers la vie. Et ça, c'est un mouvement indissociable. Et c'est une redécouverte du 20e siècle, cette redécouverte du mystère pascal qui a été faite, entre autres par la redécouverte de la théologie des pères de l'Église, qui ont justement redonné cette signification du mouvement dans lequel... Et ce mouvement-là, oui, il a concerné le Christ, mais il nous concerne, nous, encore aujourd'hui, comme individus, comme communauté chrétienne. En célébrant l'Eucharistie, on est plongé dans ce mouvement de mort et de vie qui nous entraîne, et même plus que ça, mouvement de mort et de vie qui nous plonge dans l'expérience du Christ et l'expérience de recevoir et de vivre dans l'Esprit.
Marie-Josée Poiré, dans un des articles que vous avez écrit, vous avez pris le père Aimon Marie Roguet.
Une de mes idoles.
Voilà. Qui va présenter la structure du mystère pascal.
C'est un article de 61 qui, pour moi, reste toujours un article extrêmement intéressant. Pour lui, il voyait vraiment trois dimensions dans ce mystère pascal. Dans le mystère pascal, d'une part, c'est la mort qui est en situation. La vie jaillit de la mort et c'est l'œuvre de Dieu. Mais ça, cette dimension-là, elle est interreliée, il y a ces trois dimensions-là, mais c'est interrelié à l'expérience que le peuple hébreu a vécue, qu'on peut relire dans l'Ancien Testament à bien des niveaux, bien sûr dans le passage de la mer Rouge, mais aussi dans le temps de l'exil. c'est l'expérience que le Christ a vécue dans son passage, mais c'est l'expérience que nous vivons, nous, aujourd'hui aussi, pas seulement dans la liturgie, mais dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Et là-dessus, à Vatican II, où on redécouvre vraiment à plein, parce que bon, ça faisait 100 ans là, qu'on retravaillait la notion, mais à Vatican II, on l'a vraiment reçue. Et on a une expression extraordinaire pour parler du mystère pascal. On dit « le baptême nous greffe sur la mort et la résurrection du Christ ». Et on est dans une greffe. Qu'est-ce que ça permet, une greffe? Une greffe, c'est la vie. Hein, c'est un arbre et sur lequel on va mettre, par exemple, sur un pommier, on va mettre une poire pour faire une nouvelle variété de fruits, ou encore, on va créer une nouvelle variété de chou-fleur. Hein, c'est la vie qui circule autrement et qui crée encore la vie. Mais c'est ça le mystère pascal. Il y a quelque chose de l'ordre d'une symbolique très très forte où, oui, il y a une forme de mort, mais il y a un passage vers la vie et qui est toujours en train de se renouveler et de se vivre, je dirais, de s'approfondir. La particularité pour nous, en 2025, pour nous les sujets humains, c'est que oui, on l'a vécu par notre baptême, on ne cessera pas de le vivre et de l'expérimenter à travers à la fois notre vie personnelle, notre vie spirituelle, notre vie liturgique pour ceux et celles qui fréquentent régulièrement la liturgie, et que ce sont toutes ces dimensions-là qui vont faire que on est appelé, invité à rentrer dans ce mystère de la mort à la vie. Et c'est intéressant. Bon, j'ai eu l'occasion dans les dernières semaines d'accompagner des personnes vers en fin de vie et de célébrer avec elles justement, par exemple, le sacrement des malades et des funérailles par la suite. Et c'est ça qu'on célèbre dans le sacrement des malades, dans les funérailles. C'est cette vie du Christ qui nous a été donnée, qui nous est offerte avec profusion et qu'on est invité à recevoir encore de ce passage qui va, dans la foi des chrétiens et des chrétiennes, nous amener vers une vie vécue pleinement en Dieu. On ne sait pas comment, on est là vraiment dans le mystère, ça dit bien, mystère pascal, mais ça ne se vit pas seulement à la fin, ça ne se vit pas seulement au début. La spiritualité chrétienne nous invite à le redécouvrir dans toutes les sphères de notre vie, tout au long de notre vie.
Marie-Josée Poiré, effectivement, dans la vie de toute personne, il y a des petites morts et des petites résurrections. Mais pour le croyant, ça, tout ça prend son sens juste dans l'évolution même de nos personnes. Hein. On passe de la petite enfance à l'enfance, ben il y a des morts, on doit laisser des choses. On n'est plus des petits-enfants, on est devenus des enfants, on vient des adolescents, des adultes. On vit la quarantaine, la soixantaine, on va jusqu'au centenaire. Hein. Donc, à travers tous ces... Même à travers même notre vie très concrète, on vit beaucoup ce passage des petites morts, des petites vies. Est-ce que vous nous diriez que le Christ peut donner du sens parce qu'il y a certaines morts qui sont plus difficiles à vivre, certaines choses qu'on doit laisser?
La question est très, très intéressante. Je pense qu'effectivement, c'est vrai, puis on peut justement reconnaître les traces du passage du Christ et de nous, de notre passage dans la vie du Christ à travers nos morts et nos vies. Mais j'irais moins dans les morts et les petites morts de la vie quotidienne. Pour moi, ça va peut-être plus se manifester à des passages cruciaux de nos vies où on va être appelé à faire, à regarder derrière nous, peut-être parfois 10 ans, parfois 20 ans après, et dire c'était là que le Christ était. J'aime beaucoup une phrase du philosophe théologien et historien français Michel de Certeau, qui est décédé depuis un moment. Mais il y a une phrase dans un de ses articles qui avait été publié dans Christus, je me souviens plus de quelle année, qui est extraordinaire. Il dit « Dieu passe et on ne le reconnaît que de dos ». Mais pour moi, ça, c'est une des belles. Je veux dire, le mystère pascal va parfois se laisser découvrir et redécouvrir dans une relecture qu'on va faire de nos vies et de nos expériences. Je pense que c'est vrai pour les personnes. Je pense que c'est vrai aussi pour les communautés. Et on pourrait même le dire pour les peuples, paraît-ce. Je pense entre autres à l'expérience, par exemple, que les Juifs ont vécue au moment de la Shoah. Ils ont beaucoup fait cette relecture au niveau de la mort. Quand on regarde les philosophes et théologiens juifs, on retrouve justement ce type de relecture de l'expérience qu'ils ont vécue.
Avec notre invitée, Marie-Josée Poiré, nous parlons justement du mystère pascal. Dans cette première partie de l'émission, elle nous a vraiment fait le lien entre le mystère mort-résurrection du Christ et ce que nous vivons, mais ce passage surtout. Mais il y a un autre élément qu'on voulait aborder dans l'émission « Questions d'aujourd'hui ». Et c'est vraiment à partir d'un magnifique article que Marie-Josée Poiré a écrit « De l'autel de l'Eucharistie à l'autel des pauvres, le mystère pascal en tension ». Et vous commencez, Marie-Josée, par nous parler de celui qui a défendu vraiment les plus pauvres des plus pauvres au Salvador, Oscar Romero, qui a été assassiné le 24 mars 1980. Et qui était vraiment le défenseur des paysans contre la répression. Vous avez aussi évoqué dans cet article qu'il y a eu aussi des gestes de réconciliation de l'Assemblée des évêques du Québec en avril 1990 pour reconnaître justement cette importance du droit de vote des femmes, donc et toute l'histoire, donc cette réconciliation, un geste de réconciliation. Et vous évoquez aussi l'Afrique du Sud, sous la présidence de l'archevêque anglican Desmond Tutu, la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis de mettre la lumière sur la terrible période de l'apartheid, mais sans effusion de sang. Et ça, c'est grâce d'ailleurs à cet évêque qui, la vérité, mais pas la vengeance, la vérité et la réconciliation. Et vous parlez de l'extraordinaire à l'ordinaire et vous nous invitez à voir notre célébration eucharistique à la lumière de ces événements, mais à la lumière de Saint Jean Chrysostome.
Oui. En fait, mon intérêt pour, dans le fond, réfléchir ensemble le thème de la liturgie de la justice sociale, au départ, il est venu, je dirais, d'une commande que l'Institut pastoral de Dominicaine avait faite dans les années 80.
Cet article.
De monter un cours d'abord.
De monter un cours.
Monter un cours d'abord. Et petite anecdote, quand j'étais à Paris en 92 pour mes études, je revenais au Québec pendant l'été. Et on m'avait demandé de donner le cours et donc j'avais dit à ce moment-là à moi, celui qui est devenu ensuite mon directeur de thèse de doctorat, qui était le directeur de l'école, je lui ai dit, je vais donner un cours sur liturgie justice sociale, à 15 heures. Il m'avait regardé puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas dire pendant 15 heures là-dessus?
Oh, bien, c'était la bonne question pour vous lancer le défi, Marie-Josée Poiré.
Mais je l'avais déjà donné le cours, mais il faut dire qu'après avoir vécu ma première année d'études, je l'ai remonté au complet. Là, j'ai pratiquement sacré à la poubelle tout ce que j'avais fait et j'ai recommencé à zéro.
Parce que c'est pas évident, liturgie non. Et justice sociale.
Non, c'est un couple improbable. C'est un couple improbable et même c'est un couple improbable parce que on a très souvent eu tendance, puis au Québec ici, je pense que c'est un courant assez fort. On a eu ici au Québec une mouvance de chrétiens et de chrétiennes très engagés dans l'action catholique, dans les mouvements sociaux, qu'on pense au CPMO, qu'on pense à différents organismes, le défunt est regretté sans justice et foi.
Les coopératives,
bon, tout ça. Bon, et tout ça a pris naissance au départ dans la forte importance qu'a eu l'action catholique ici au Québec. Bon, les premières générations d'action catholique, pour eux et pour elles, séparaient pas, je crois, ce que j'ai compris puis ce que j'ai vu en échangeant avec des personnes, ne séparaient pas justement justice sociale et liturgie, parce que pour eux, ça allait de soi, on était chrétien, on était catholique, on allait à la messe, on pratiquait, on se posait pas de questions. Mais à un moment donné, la génération peut-être d'après 68, d'après une périodisation dont j'ai entendu très récemment parler par la professeure Catherine Foisy, elle a justement fait un avant 68 et un après 68. Et là, il y a eu peut-être un durcissement justement en Église qui a fait qu'il y a eu les chrétiens plus entre guillemets sociaux, les chrétiens et chrétiennes sociaux, se sont mis à dire, vous les chrétiens liturgiques, vous vous engagez pas à aussi là-dedans. Bon, je pense, j'ai beaucoup travaillé pendant un moment avec Julien Harvey, qui était un jésuite. Je lui avais demandé, quand j'étais à Ville Liturgique, d'écrire un article. Et il l'avait vraiment fait dans ce mode d'opposition-là. Et moi, je me disais, mais non, ça tient pas la route. Je veux dire, moi, quand je m'intéresse à la liturgie, mais je suis aussi quelqu'un qui s'est engagé socialement. Il me semble que c'est la même personne, c'est la même source, c'est la même foi chrétienne qui me fait agir d'un à l'autre. Et ben, c'est justement quand j'ai découvert et approfondi ce qu'était le mystère pascal, et quand j'ai découvert Saint-Jean Chrysostome et ses écrits, que là, pour moi, ça a fait clic. Ben, ce qui était à ce moment-là une simple intuition est passé dans l'ordre de la conviction. On a Chrysostome dans plusieurs de... Bon, on sait que Chrysostome là, a été patriarche de Constantinople. Il s'est pas fait d'amis à la cour impériale. Il s'est même fait mettre à la porte de son archevêché par l'impératrice du temps qui l'a envoyé en exil au bout du désert, puis il n'en est pas revenu. Et pourquoi la cour l'avait pris en grippe comme ça? C'est parce que Chrysostome les a provoqués, justement, en articulant le fait qu'on ne pouvait pas être des chrétiens et des chrétiennes qui célèbrent, sans être aussi des chrétiens et des chrétiennes qui pratiquent la justice, qui vivent la justice, qui transforment le monde. Il va vraiment très, très loin. Là. Il identifie, dans ses homilies, il identifie le corps du Christ qui est sur l'autel au corps du Christ qui est incarné dans celui ou celle qui est nu et qui quête au bord de dans la rue. Je veux dire, il reprend en cela ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, hein, quand, je veux dire, dans le fameux sermon sur le jugement, qu'on appelle souvent le jugement dernier, là, on pourrait discuter longuement sur le titre, mais dans le jugement dernier, Jésus dit, à quelque part, je suis venu incognito. Je viens incognito, et quand vous pensez me reconnaître, c'est pas là nécessairement que je suis. Je suis dans le plus petit que vous nourrissez, dans celui que vous habillez, dans celui que vous accueillez. Et donc, Chrysostome, à quelque part, donne comme pratiquement, comme condition de validité, de la vérité, de la célébration rendue au Christ et à Dieu, il donne comme condition de validité le fait d'être au service des plus pauvres et des plus petits. Et donc là, ça reconfigure complètement les liens entre les deux. Et il dit même, il va jusqu'à dire, l'autel, quand il parle de l'autel, c'est pas seulement l'autel sur lequel on célèbre l'Eucharistie, l'autel, ce sont les membres même du corps du Christ. Il va très loin.
Très fort, effectivement. Et vous-même, Marie-Josée Poiré, quand vous dites dans votre article pour Jean Chrysostome qui a vécu, rappelons-le, de 345 à 407, donc ça fait quand même...
Un petit moment.
Mais ces écrits nous sont parvenus. Vous écrivez, pour Chrysostome, l'autre, le frère et la sœur, le petit, le pauvre, est aussi un temple qui a même plus de valeur que le temple de Pierre. L'autre, comme le dit le deuxième extrait que vous mettez en évidence de Jean Chrysostome, est comme un autel où offrir le vrai culte qui plaît à Dieu.
Ça donne beaucoup ces textes, de même que Matthieu 25 nous donne beaucoup, beaucoup à réfléchir sur, bon, d'une part sur notre responsabilité comme membre du corps du Christ, c'est ça que les chrétiens et les chrétiennes, qu'on soit catholiques, épiscopaliens, luthériens ou d'autres confessions, nous sommes des membres du corps du Christ, donc qui avons à prendre soin comme membre du corps du Christ, des plus petits et des plus pauvres du corps du Christ. Beaucoup de gens ont été extrêmement frappés par l'intervention de l'évêque Marianne Baudet, l'évêque épiscopalienne américaine au moment de la célébration au lendemain de l'investiture de Donald Trump, où elle a rappelé l'importance, la nécessité de la miséricorde et de l'attention aux plus petits et aux plus pauvres. Elle rappelait ça à la face des premiers de l'administration Trump. On sait que ça n'a pas plu au président et au vice-président. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement rappelé ce qui est au cœur de l'Évangile et au cœur de la plus grande tradition de foi qui a été transmise pendant les premiers siècles de la vie de l'Église.
Marie-Josée Poiré, pour terminer cet article, vous nous invitez à devenir des hommes et des femmes de passage. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Ben, pour moi, le mystère pascal, c'est quelque chose qui... j'ai parlé tout à l'heure du mystère pascal comme passage. La résurrection se vit en nous et va pouvoir continuer de se vivre aussi par nous, par nos gestes. Moi, je crois profondément que Dieu se donne à reconnaître aussi. C'est pas nous là, qui allons nous présenter comme les envoyés de Dieu, mais Dieu se manifeste à travers nous, à travers nos gestes. On était invité justement à vivre avec le Christ ce passage de la mort à la vie, puis on est invité par nos gestes à le manifester, à le faire grandir, à le donner à voir, à prendre par la main ceux et celles qui ont faim, qui ont soif. Moi, je reconnais la présence du Christ aujourd'hui qui relève, qui fait passer de la mort à la vie dans des gestes de personnes qui sont engagées auprès des immigrants et des immigrantes, auprès des personnes sans domicile fixe. En cela, j'aimerais ça vous citer un petit texte que j'aime beaucoup. Un texte qui est de Christian de Chergé, l'ancien prieur, le prieur défunt de Tibérine en Algérie, qui dit dans son testament, il dit « Jour après jour, nous avons redécouvert ce à quoi Jésus-Christ nous invite, c'est à naître. Notre identité d'homme et de femme va de naissance en naissance, et de naissance en naissance, nous allons bien finir nous-mêmes par mettre au monde cet enfant de Dieu que nous sommes. Mais ça, on le fait pour nous, mais on le fait aussi en solidarité avec nos frères et sœurs, particulièrement les plus petits, qui sont ceux chez qui on peut reconnaître le Christ. »
Marie-Josée Poiré, un grand merci de nous avoir élargi notre vision du mystère pascal, mais d'avoir vraiment mis en évidence le passage de la mort à la vie. Merci beaucoup.
Merci, Renaud.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci pour votre présence, votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.